Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, maintenant, on va parler, bien sûr, de l'attaque menée par l'Iran contre Israël. Et la grande question qui est posée aujourd'hui, que va faire Israël? Quelle sorte de réplique Israël envisage? Pour l'instant, pas d'opération militaire en vue et une énorme pression exercée par la communauté internationale sur Israël, les Américains, mais également le groupe du G7, les Nations Unies, qui demandent à Israël de la retenue, d'éviter de répondre à ces attaques avec des drones, des missiles. Plus de 90% de ces drones et missiles ont été interceptés par ce qu'on appelle le dôme d'acier de l'État d'Israël, avec la collaboration des Américains, mais aussi les Britanniques, les Jordaniens ont participé à cette opération pour protéger Israël. D'ailleurs, les citoyens ont entendu les explosions. Il y a une petite fille qui a été plus grièvement blessée. Mais malgré donc quoi 300 missiles, des drones qui ont été déployés au-dessus d'Israël, les dommages demeurent extrêmement limités. Mais ça veut dire énormément de pression sur le premier ministre Netanyahou. Les faucons à l'intérieur de son gouvernement voudraient une réponse massive, rapide, militaire, alors que l'Iran dit, prenez note que malgré le fait qu'Israël est responsable de la mort d'Iraniens en Syrie lors d'une attaque ciblée, nous avons, nous, fait preuve d'une modération dans notre réponse. Alors, la question est posée. Ce matin, on va en discuter avec Jean-François Lépine et Fabrice de Pierrebourg. Maintenant, en France, j'attire votre attention sur les propos dans les dernières heures du président Emmanuel Macron au sujet des Jeux olympiques. Il a dit, et je cite, « Si la menace terroriste devient trop forte. Nous allons déplacer la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. » On sait que cette année, le scénario envisagé pour cette cérémonie est absolument unique, exceptionnel. C'est-à-dire qu'on veut faire entrer les athlètes vers Paris par la Seine sur des bateaux. Et dans le plan qui est une espèce de chorégraphie qui a été élaborée, donc tous ces athlètes vont longer la Seine. Les gens vont pouvoir se regrouper place Trocadéro et également les leaders du monde, les dignitaires qui seront présents. La foule va pouvoir assister tout au cours de la journée donc à ce déploiement exceptionnel. Et Macron a dit, il y a, et on n'est pas naïf, on essaie d'être réaliste, un plan B, un plan C pour ce qui est de cette cérémonie parce que évidemment, on pense même peut-être limiter la cérémonie au Stade de France si, malheureusement, la menace terroriste est monte d'un cran et qu'on pense que là, il y a vraiment un danger réel. Aux États-Unis, une affaire de sexe, de politique, de scandale, ça implique Donald Trump. Et pour la première fois, c'est une accusation criminelle. Là. Il y a d'autres accusations criminelles dans le tableau, mais c'est la première fois qu'un président sortant est accusé de la sorte à New York. Alors, essentiellement, quelle est l'histoire? Monsieur Trump est accusé d'avoir eu une relation extramaritale avec une vedette porno, ce qu'il nie. Et qu'on a donné de l'argent à la vedette porno, Stormy Daniels, pour qu'elle taise l'histoire et qu'elle accepte donc une formule où elle s'engage à ne pas raconter, à la veille de l'élection, ses relations, ses liens avec Donald Trump. Et elle l'a fait quand même. Tout ça dans la saga où Monsieur Trump disait à micro ouvert, mais pour non-diffusion, que lui pouvait faire ce qu'il voulait avec les femmes, il pouvait les prendre par la taille, la main en dessous de la jupe, c'était pas un problème. Alors, Donald Trump nie tout ça. Le procès, vous allez me dire, ça le regarde lui, c'est vrai, mais on l'accuse d'avoir falsifié des documents et donc d'avoir utilisé son avocat personnel pour payer Stormy Daniels pour étouffer l'affaire. Il y a une autre femme, modèle Playboy, qui dit également avoir eu des aventures sexuelles avec Trump, ce qu'il nie. Elle a tenté de vendre son histoire au National Enquirer, qui l'a acheté, mais pour la faire mourir. Ça, c'est une technique. C'est un ami de Trump, et il a acheté deux histoires comme ça, et il les a jamais publiées. Il a préféré, donc, refermer la marmite sur le scandale. Alors, est-ce que Trump va témoigner? Plusieurs pensent que oui. Et le juge qui s'occupe du procès l'a mis en garde, parce qu'on sait que M. Trump multiplie les propos agressifs, les remarques désobligeantes sur le juge, sur les procureurs, sur les témoins. Donc, il y a un interdit qui a été décrété en disant, vous pouvez faire des commentaires, mais vous n'avez pas le droit d'insulter les gens qui sont dans ce procès-là. Et donc, c'est la sélection des membres du jury aujourd'hui. Et puis, ça arrive alors qu'on a un sondage qui montre que les Américains considèrent que Trump, ça a été un pas si mauvais président que ça. La cote de popularité de Biden s'effondre tout doucement. Et quand on leur dit, trouvez-vous que c'est un bon président, il y a une forte majorité d'Américains qui pensent que non. Alors que on reconnaît que Trump abuse dans le vocabulaire, qu'il polarise, qu'il divise les gens, mais que sur le plan économique, sur le plan de l'immigration, ça a été un président efficace. Et plus on avance dans cette course à la Maison-Blanche, plus on voit des gens qui disent essentiellement, on veut ni l'un ni l'autre. On veut pas de Trump, on veut pas de Biden. On est pris à faire ce choix. Vous me direz, il y a Robert Kennedy Jr., mais ça demeure un phénomène marginal. Et tant qu'à faire, ben on pense que Trump peut-être pourrait être un meilleur président. Tout ça est assez intéressant. On va suivre avec intérêt cette course jusqu'au mois de novembre. Très bien, la presse revient ce matin sur le dossier de Robert Miller, ce milliardaire qui aime les petites filles, les adolescentes. Tout ça avait été rendu public par l'émission Enquête de Radio-Canada. Et ce qu'on comprend de toute l'histoire, c'est que M. Miller, pendant des années, a recruté, par l'intermédiaire de proches, des jeunes filles, des filles mineures, qu'il achetait avec des cadeaux, de l'argent comptant. C'est son ex-conjointe dans une procédure de divorce houleuse qui a alerté des enquêteurs privés sur le comportement de son mari. Vincent Larouche, dans la presse ce matin, revient là-dessus et montre à quel point la police de Montréal a tenté de coincer Robert Miller. Et on cite le travail de nombreux policiers du SPVM là, qui ont bâti le dossier, qui ont fait de la filature et qui se sont heurtés aux avocats de M. Miller. La puissance de l'argent pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accusation. D'ailleurs, le DPCP a analysé le dossier puis a conclu qu'il n'y avait pas matière à poursuivre. Puis il y a des témoins qui ont été, entre guillemets, intimidés par des avocats. Et tu te dis, mais comment ce gars-là a pu échapper à la justice? Aujourd'hui, c'est un homme malade, en fin de vie. Il a vendu son entreprise, il vaut des milliards. Et plusieurs de ces jeunes filles ont intenté un recours collectif contre lui. Mais il y en a une qui a été déboutée parce qu'elle avait signé une entente puis qu'elle avait touché de l'argent. Mais c'est incroyable. Puis je me mets à la place des policiers impliqués dans ça. Quand tu découvres que ce gars-là avait un réseau, recrutait donc des mineurs, parfois des jeunes filles en fugue d'un centre jeunesse, parfois à travers une école, puis par des amis. Et il les amenait à différents endroits, dans un hôtel de Montréal. Puis ils pouvaient passer là sans trop de problèmes. Puis tout le monde avait l'air de savoir qu'on avait affaire à des mineurs, puis que c'était sous une forme de prostitution. Puis malgré ça, avec des policiers retraités qui l'ont protégé, et puis là, l'SPVM va nous dire, non, on a fait notre job, là. Mais quand vous avez le pouvoir de l'argent avec des avocats, des anciens policiers qui font une espèce de muraille autour du gars, ça devient compliqué. Puis des avocats présents lorsque les jeunes filles témoignent, des avocats de Miller, c'est une histoire qui ne sent pas bon et ça se poursuit. Donc vous lirez ça ce matin dans la presse. Maintenant, pour ce qui est du soleil, on rapporte que beaucoup de départs d'émissions en série au système 911 de la Sûreté du Québec. C'est plus d'un quart des répartiteurs d'urgence de la Sûreté qui ont claqué la porte l'an dernier. Il y a un roulement de personnel à un niveau sans précédent. Et je rappelle que c'est quand même la centrale 911 et que c'est important. Donc, à travers le Québec, il y a eu des démissions à répétition. Par exemple, pour ce qui est de Québec-Trois-Rivières, une trentaine de répartiteurs sont partis. Sherbrooke, une vingtaine. Gatineau-Saguenay, une dizaine chacun. Et tout ça concerne le climat de travail, évidemment. Et puis les conditions tout court, là, c'est-à-dire climat de travail et également la rémunération. Parlons du Conseil national du Parti québécois. Ça a le mérite d'être très clair, là. Paul Saint-Pierre Plamondon dit « Quoi qu'il arrive, si nous prenons le pouvoir, nous allons tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. » Et plusieurs, depuis qu'il a pris cet engagement, mettaient ça en doute en disant « Les Québécois ont pas un appétit pour la souveraineté et ont peut-être un appétit pour changer de gouvernement. » Et ça nous ramène toujours dans la mécanique, la dynamique de « Je vote pour un bon gouvernement » comme en 76, puis bon. Là, il y a eu un référendum en 80, il y a eu un autre référendum en 95, et là, il dit, le Canada cherche à effacer le Québec, à annuler le Québec, et c'est notre dernier rendez-vous avec l'histoire. C'est ça ou c'est terminé. Le croyez-vous? Avez-vous l'intention de voter pour lui? Est-ce que vous voulez un référendum? Toutes ces questions-là vont venir en vue de la prochaine élection. Mais on peut pas lui reprocher des langues de bois, là, c'est très clair. Vous allez voter pour le PQ, c'est que vous votez pour qu'il y ait un référendum sur la souveraineté du Québec, et il qualifie ça de chance ultime. Demain, c'est le budget du gouvernement fédéral. Les milliards ont été, dans le cadre d'un striptease national, saupoudré depuis les 10 derniers jours, que ce soit pour le logement, que ce soit pour l'intelligence artificielle. Donc, demain, quel sera l'élément clé? Ben, le déficit anticipé, d'une part, et aussi peut-être quelques mesures pour augmenter les revenus, donc taxer les plus riches, et peut-être changer des crédits d'impôt qui peuvent exister pour les entreprises. Donc, ça reste à voir le budget de Mme Freeland. Déjà, l'an dernier, il y avait eu une augmentation pour les gens qui font un revenu de 300 000 et plus. Ça devait rapporter quelques centaines de millions. Mais c'est pas ça qui va faire la différence là, pour effacer le déficit. Alors, demain, c'est présenté par la ministre, Mme Freeland. D'autre part, on va parler de santé ce matin. Quelques nouvelles. La presse nous apprend, mais ça, on le savait, là, que les préparations pour nourrissons, d'abord, sont rares et coûtent cher. Vous allez me dire, c'est un vieux principe économique. C'est vrai. Mais avant 2022, on pouvait vendre le prix de ces préparations à peu près 26 $ pour 900 grammes. Là, c'est rendu à 41 $. Puis là, c'est pas un produit là accessoire, secondaire, fait partie de l'alimentation d'un enfant. Alors, on se souvient qu'il y avait une usine qui avait fermé ses portes aux États-Unis et que là, il y avait une forte demande et les autres en ont profité pour augmenter les prix. Ce qui fait que, avec l'inflation en général, la facture d'épicerie globale, beaucoup de parents sont comme coincés. Et même s'il y a moins de ruptures de stock, les prix demeurent extrêmement élevés pour beaucoup de familles. Donc, des gens qui n'ont pas des revenus à tout casser, ben sont coincés vraiment avec les préparations qui coûtent cher. Puis là, on entend la même cassette que d'habitude, là. Coût de la main-d'œuvre, matières premières, réseau de distribution. On l'a entendu très souvent. On revient sur les psychostimulants. La consommation est en hausse au Québec. Ça fait des années que nous sommes les champions de la consommation des psychostimulants pour traiter, par exemple, le déficit d'attention chez les enfants, chez les jeunes. Et il y avait des médecins qui étaient sortis, vous retrouvez ça ce matin dans le Journal de Montréal, il y a quelques années, pour dénoncer la surconsommation, la surprescription des psychostimulants. Tu sais, le fameux Ritalin, là, on en donne beaucoup. Et est-ce qu'on a raison d'en donner autant? Probablement pas. Puis là, je veux pas repartir la discussion ce matin. À chaque fois, il y a des parents qui me disent « ça a changé mon fils, ça fait du bien, ça l'a... » Disons, ça lui a rendu les idées plus claires, son comportement est meilleur. Je dis pas que c'est inutile, mais souvent, on a la prescription facile et on n'est pas capable d'avoir les ressources. Il y a un expert, Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, qui dit « c'est parfois de l'anxiété, c'est parfois... » Le fameux temps devant les écrans, le manque de soleil, le manque de soleil aussi, là, c'est-à-dire d'activité sportive. Et comme c'est facile à régler avec une prescription, ben c'est ce qu'on fait. Puis au Québec, c'est prouvé. Il y a beaucoup, beaucoup. Nous sommes champions canadiens depuis des années. Donc, dans le Journal de Montréal, vous retrouvez ça. Le quart des décès chez les jeunes adultes au Canada, c'est causé par les opioïdes. Et surtout, ce qui vient du marché noir. Puis on peut penser, évidemment, au fentanyl. Et puis, un mot en terminant sur la FIC. C'est non, la réponse des syndiqués à 61-62%. On va en parler avec la présidente de la FIC, Julie Bouchard, ce matin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on reprend la négo. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a dit « Nous prenons acte, mais on va devoir négocier à travers les paramètres déjà fixés. » Alors, est-ce que les membres vont vouloir réaménager l'entente? Est-ce qu'elles veulent plus? Puis qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire pour l'obtenir? Puis remarquez, puis je dis ça en terminant, là, c'est pas la première fois que des membres disent à leur exécutif syndical « T'as pas fait ta job ». Des fois, je me dis, est-ce que c'est une stratégie pour dire « Regarde, on va aller la présenter, l'entente, puis on sait que ça va être non, mais on va la présenter pareil. » C'est arrivé chez Air Transat. C'est encore le cas à la Sûreté du Québec où ils ont dit non. Puis là, ils sont en négo, puis il y a quoi, 2-3 semaines, ils nous disaient vouloir régler rapidement. C'est le cas avec la FIC. Donc, il y a plusieurs gros contrats de travail comme ça où les membres, puis ils sont nombreux, nombreuses à aller voter, disent non. Tu vas retourner, je veux plus.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Donc, on a appris le résultat du vote chez les membres de la FIC. C'est un rejet de l'entente de principe proposée à 61%. J'en parle avec la présidente de la FIC, Julie Bouchard. Madame Bouchard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Comment vous expliquez le rejet de l'entente de principe que vous étiez quand même prête à leur présenter?
Bien, j'étais prête à leur présenter, évidemment, puisque c'est ce qu'on a fait. Maintenant, comment on l'explique? Je pense que c'est multifactoriel, dans le sens où, pour elles, c'est insatisfaisant. C'est insuffisant, puisqu'elles ont trouvé, en fait, que la concession qu'on avait dû faire ou les concessions qu'on avait dû faire étaient beaucoup trop grandes pour ce qu'elles étaient prêtes à accepter. Alors maintenant, elles nous ont dit... Nous ne voulons pas de cette entente de principe. Nous voulons que vous retourniez à la table de négociation et c'est ce qu'on va faire. Parce que maintenant, on sait qu'avec un aussi haut taux de participation, eh bien, on a 60 000 professionnels en soins qui sont derrière nous, avec nous, prêts à continuer à mener cette lutte-là au niveau de la négociation nationale et c'est ce qu'on va faire.
OK, mais là, on va parler concrètement là, pour savoir exactement ce qui ne fait pas l'affaire. C'est la mobilité du personnel, le principal point?
Bien, c'est là où c'est difficile un petit peu pour nous parce qu'il y a tellement de choses qui ont circulé. Alors là, ce qu'on doit faire, nous, c'est respecter nos structures, évidemment. Donc, on doit aller consulter nos instances, aller voir c'est quoi exactement. On sait très bien que mobilité, souplesse, flexibilité fait partie des enjeux. Maintenant, ça ne peut pas être un seul enjeu uniquement.
Mais attendez, alors, je veux juste comprendre. Là. Oui? Je sais que le gouvernement demandait de la souplesse. Vous avez accepté visiblement un certain nombre de règles. Là, ce matin, ce que je veux juste comprendre, est-ce que, par exemple, de déplacer une infirmière d'un quart de travail ou d'une tâche vers un autre hôpital ou un autre quart de travail... Bon, est-ce que c'est volontaire ou obligatoire?
Il y a deux choses. La première chose, c'est lorsqu'on parle de déplacement obligatoire. Si je t'annonce avant le début de ton quart de travail que je t'envoie dans un autre département ou dans un autre établissement. Et ça, c'est sur une base volontaire. C'est ce qui est déjà inscrit dans nos conventions collectives. Et lorsque c'est fait de manière obligatoire, ça veut dire que c'est illégal de le faire. Maintenant, nous, ce qu'on s'est entendu avec l'employeur, c'était de dire, sur les centres d'activité. Donc, il peut avoir fusion. Je peux jumeler un département de médecine avec un département de chirurgie, par contre, et que ce soit un poste comme ça qui soit offert. Et c'est là où les membres nous disent non. On veut avoir un respect de notre expérience et de notre expertise. Et le fait de dire que une infirmière auxiliaire, une allo, une perfusionniste clinique, c'est bon juste à prendre des prises de sang ou encore à prendre des signes vitaux, eh bien, ce n'est pas vrai. Et ça, ça fait 2 ans, M. Arcan, qu'on le dit haut et fort sur la place publique. Ça a fait partie des très grosses revendications qu'on a faites pendant toute l'entièreté de la négociation nationale. Et malheureusement, il a fallu un rejet de l'entente de principe faite à 61% pour que le gouvernement entende les professionnels en soi. Okay. Donc, c'est elles qui disent, ce n'est pas une histoire de fic, là. C'est pas les représentantes syndicales qui disent, ça n'a pas de bon sens, c'est illégal, ce n'est pas ça. C'est nous, en tant que travailleuses et travailleurs, qui ne voulons pas de ça comme condition de travail parce qu'on n'a pas confiance envers nos gestionnaires, envers nos employeurs, comme de quoi que ce sera fait de manière logique, de manière correcte. Ça va partir en vrille. Donc, c'est l'enjeu premier.
Bon, là, pour que ça soit encore plus clair, parce que vos membres, là, il y en a beaucoup qui m'écrivent, là, puis qui ont différentes interprétations si je vois la liste de courriels que j'ai devant moi, là. Mais en gros, là, un exemple. Est-ce qu'une infirmière qui travaille en clinique externe dans un hôpital peut se faire dire, vous allez travailler, je sais pas, moi, à l'obstétrique, gynéco?
Ben, ça, c'est ce qu'on a vu pendant la pandémie. C'est ce qu'on a vu aussi à certains égards à Mauricie, en Québec. Et c'est là-dessus que nous, ce qu'on a dit au gouvernement, c'est des déplacements obligatoires. C'est non, ça ne peut pas être fait. C'est dangereux pour la population. C'est dangereux pour chaque infirmière, infirmière auxiliaire, inhaleuse qui doit donner des soins.
Je comprends ce que vous me dites, mais moi, le gouvernement m'explique qu'il n'y avait rien d'obligatoire.
Ben, justement, il n'y avait rien d'obligatoire, mais ça a toujours été comme ça dans les conventions collectives. C'est de manière volontaire. Et là où la méfiance, le lien de confiance est brisé envers une grande majorité des professionnels en soins et les gestionnaires du réseau, c'est justement le fait que le volontariat soit mis de l'avant. Eh bien, il y a plusieurs gestionnaires qui ne le respectent pas et on tombe dans l'obligation de.
OK, mais là, est-ce qu'on est en train de projeter dans le sens qu'il n'y a rien dans l'entente de principe où il y a une obligation de le faire? C'est du volontariat, c'est ça?
Parce que là, on mélange deux dossiers. Il y a le déplacement obligatoire pour lequel on s'est battu pendant longtemps et il y a le centre d'activité dans lequel on a balisé dans l'entente de principe. Le déplacement obligatoire, c'est sur une base volontaire. Maintenant, dans l'entente de principe...
C'est dur, je m'excuse, là, c'est peut-être moi qui est endormi, là, mais un déplacement obligatoire sur une base volontaire, là, j'ai misère à vous suivre.
Dans le déplacement obligatoire, c'est ce que le gouvernement voulait au départ. Et nous, on disait, dans la convention collective actuelle, il y a déjà le déplacement volontaire.
Bon, mais alors à ce moment-là, c'est quoi le problème?
Le problème est sur le centre d'activité, l'endroit où on a ouvert dans l'entente de principe, où on disait, vous pouvez fusionner parce qu'ils ont déjà la possibilité de fusionner 2 centres d'activité ensemble et pour s'assurer que les professionnels en soins soient aptes à aller travailler, eh bien, il y a des formations qui seront données avant que le travail débute et tout au long de la carrière pour que la professionnelle en soins puisse être correcte dans son travail. Et c'est là où nos membres nous ont dit, nous ne voulons pas de cette ouverture-là.
OK, vous étiez d'accord avec ça, puis vos membres vous ont dit non.
Ben, vous savez, en négociation, comment ça fonctionne, on prend une chance. À un moment donné, on est à table, là, le gouvernement nous dit, ben, écoutez, s'il n'y a aucune ouverture sur tout ce qui est flexibilité, souplesse, mobilité, il n'y en aura pas d'entente. Donc là, on prend un guess, on dit, OK, avec ce qu'on a été chercher, que les autres gains en parallèle, on pensait que ça allait combler cette concession-là crève-cœur qu'on a dû faire. On a dû se piler dessus là, pour faire cette concession-là. Et là, nos membres nous disent que ce n'est pas suffisant. Mais on ne veut pas que vous ouvrez là-dessus. Donc,
non, mais je vous donne un exemple. OK, mais je vous donne un exemple. Là. Puis vous me direz si ça tient la route. Là. Oui. Mettons là, que je travaille à l'hôpital X. et qu'on m'informe qu'il y a une fusion, deux hôpitaux par exemple, ou une structure, puis on m'envoie à l'hôpital Y dans, appelons ça, la nouvelle entité, puis j'ai 30 kilomètres à faire pour aller travailler. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent arriver?
Ce sont des choses qui peuvent arriver, déjà. Ce sont des choses qui font déjà partie de certaines conventions collectives, mais pas de tout. Et là, on parle de conditions de travail pures et simples, de conciliation travail-famille, vie personnelle, donc de femmes qui doivent traverser 30 kilomètres supplémentaires pour aller travailler, alors okay. que c'est déjà compliqué, entre autres dans les grandes villes de Montréal, de Québec, où 30 kilomètres, là, c'est à peu près à 1h15 de voiture.
OK, vous, dans donc, le fond, ce que vous dites, c'est que vos membres, ils veulent rester dans leur hôpital puis ils veulent pas travailler dans un autre hôpital.
Voilà, elles veulent rester sur leur département d'origine où elles ont appliqué, où elles ont obtenu un poste. Elles veulent avoir le choix. Elles veulent devenir des experts, prendre de l'expérience. Et si elles veulent changer d'endroit, elles veulent le faire sur une base volontaire et non être imposées okay. à le faire.
Sur la rémunération, est-ce que, d'après ce que vous comprenez, elles étaient d'accord?
Ben encore là, il faut aller consulter nos instances parce que oui, on vous... entend plein de choses. Pour plusieurs, le 17,4% semblait correct. Par contre, l'enjeu qu'on a eu, nous, c'est que oui, 17,4%, c'est bien, mais on avait une prime lors de la dernière convention collective qui était de 3,5%. Et ça, cette prime-là était uniquement pour les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, perfusionnistes cliniques. Donc là, le 17,4% n'est plus un 17,4% pur. On parle de 13,9% d'augmentation salariale. Donc, c'est pour ça que okay. je dis qu'il y a plusieurs enjeux mais, dont on doit avoir ces discussions-là pour pouvoir travailler sur les bonnes choses pour la suite.
Ouais, Madame Bouchard, il y a de vos membres qui m'écrivent en disant comment ça se fait qu'à l'urgence, il y a une prime puis moi, j'en ai pas.
Ça peut être partie des primes de soins critiques. Donc, c'est si je travaille dans un département où il y a des, nous on appelle ça des scopes là, j'ai pas l'expression française, mais où ce qu'on doit faire de la surveillance très 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 étroite, puisqu'il y a des soins très critiques à donner, eh bien on a comme une prime supplémentaire.
Mais
qui
ça je comprends,
ça.
Mais quand t'es pas à l'urgence, t'as pas une prime pour l'urgence. Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait qu'on gère beaucoup 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 avec des primes, puis les gens qui en ont pas sont frustrés.
Ah ben ça, les primes, puis vous saviez à quel point on en a, puis qu'on essaie de faire un ménage là-dessus, puis qu'on les membres même nous demandent des primes, on n'en veut plus. Tout ce qu'on veut, c'est avoir du salaire qui fait partie aussi du REGOP, sauf que qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place? Des primes. Okay. Pour aller combler un inconvénient, c'est des primes pour la partie patronale, de mettre une prime de l'avant, bien créer cette attraction et cette rétention-là, mais dans les faits, ce n'est pas ça. Au okay. contraire.
OK. Deux, trois questions. La première, j'imagine que vous avez regardé un peu les résultats du vote. Est-ce qu'il y a des régions où le rejet était plus fort que d'autres?
Ben, on a regardé vraiment très globalement parce que nous, c'est un référendum et le résultat qui sort, c'est vraiment à travers le Québec au grand complet. Donc là, ça fait partie aussi de l'analyse qu'on doit faire avec nos instances, d'aller comprendre où ça a vraiment été un rejet catégorique extrêmement fort.
Ça se peut-tu la Mauricie? Aussi? La Mauricie?
La Mauricie en fait partie effectivement beaucoup d'endroits aussi dans Montréal là, de mémoire c'est très très vague là. Mais il y a des endroits aussi où l'entente de principe a été adoptée, donc il faut comprendre justement quels sont les enjeux pour recréer justement cet objectif-là commun pour qu'on puisse retourner à la table de négociation avec des mandats très clairs pour continuer la négociation.
OK, mais là sérieusement là, une présidente de fédération comme vous le savez où ça a bloqué, quelles sont les régions, dans quel coin ça pas passé?
Ben, je vous dirais qu'avec un vote à 61%, c'est quand même assez parlant. Donc ça veut dire le message qu'on reçoit. Et pour moi, là, je suis vraiment très contente d'avoir ce message-là parce que les professionnels en soins ont réitéré au gouvernement qu'elles sont toujours debout, déterminées et prêtes à continuer cette bataille-là, qu'elles sont avec nous. Et
vous ne prenez pas comme un blâme au syndicat d'avoir accepté ça?
Pas du tout.
Okay.
Pas du tout. Au contraire.
Est-ce que vous avez repris les pourparlers avec le gouvernement?
Hier soir, il y a eu une discussion un comité de négociation patronal, un comité de négociation syndicale, avec encore le conciliateur qui est de retour parmi nous, évidemment. Donc, l'échange a été quand même très cordial en disant il y a l'ouverture à redébuter. Tu sais, c'est pas on est fermé chacun de notre côté. On doit faire nos travaux à nous pour justement recueillir toute l'information nécessaire. Et par la suite, on va redébuter nos travaux avec toute l'énergie qu'il faudra mettre, évidemment, parce que c'est notre travail et qu'on y croit. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les professionnels en soins aient les meilleures conditions de travail possibles pour que la population ait les meilleurs soins possibles.
OK. Dites-moi, est-ce qu'il y a des moyens de pression en vue?
Pour l'instant, il n'y a pas de moyen de pression en vue parce que on doit, dans un premier temps, aller chercher toute l'information nécessaire. Par contre, il n'y a rien d'écarté encore. On a toujours le mandat d'une grève qui peut être débutée. Donc, on va tenir évidemment les instances en fonction de ça. On va faire des plans d'action. Si plan d'action, il y a lieu d'être, évidemment, que on sait que les professionnels en soins sont encore là, debout, et c'est ce qu'on va faire.
OK. Merci, Mme Bouchard. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Julie Bouchard est la présidente de l'AFIC qui a rejeté, les membres ont rejeté dans une proportion de 61% l'entente de principe avec le gouvernement.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, la grande question ce matin, que fera Israël après l'attaque menée contre l'Iran? L'Iran qui dit « nous avons fait preuve de retenue ». Quelle sera donc l'attitude du gouvernement de Netanyahou? Deux invités pour en parler, deux collaborateurs, Jean-François Lévin, bonjour.
Bonjour.
Et Fabrice de Pierrebourg. Je commence avec Jean-François. Alors, tout le monde, il y a beaucoup de pression sur Israël, ça veut dire les Américains,
oui.
Le groupe des sept, même les Nations Unies, en disant, s'il vous plaît, restez calme.
Oui, en fait, c'est intéressant parce que je vois apparaître une nouvelle terminologie. On appelle ça le réseau de l'inclusion. Ça, c'est les États-Unis, l'ONU, l'OTAN, tous ceux qui appuient Israël, même l'Égypte et la Turquie sont dans ce réseau-là. C'est les gens qui sont et les pays du Golfe qui veulent un peu collaborer à une solution. Autant que ce réseau-là que ce qu'on appelle le réseau de la résistance. Ben ça, c'est évidemment l'Iran et tous ses collaborateurs dans la région. Autant ces deux côtés-là, on les voit là. Demandent ou veulent une retenue. Surtout l'Iran, évidemment, parce qu'elle sait à quel point l'attaque a montré un petit peu, et c'est ça qui choque les Israéliens, c'est pas tellement les dommages, mais c'est le fait que leur manœuvre pour dissuader l'Iran aurait échoué. Ils ont amené l'Iran sur un nouveau terrain. Et c'est ça qui est aussi la chose qu'il faut retenir dans tout ça. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, mais là, on est passé à une autre étape. C'est la normalisation de la guerre directe entre les deux pays. La dernière fois que ça s'est passé entre un pays arabe ou un pays ennemi d'Israël et une attaque directe sur Israël, c'est en 91 avec l'Irak à l'époque. Mais depuis ce temps-là, l'Iran, on appelait ça une sorte de guerre d'ombre parce que ça se fait par des intermédiaires, on en parlait avec Fabrice tantôt, il y a eu un attentat contre le grand concepteur ou le maître du programme nucléaire iranien sur le sol iranien. Évidemment, les Israéliens n'ont jamais revendiqué, mais ça s'est fait quand même sur le sol iranien. Mais il n'y avait jamais donc d'attaque officielle. Et là, on est passé à une autre étape et c'est pour ça que ça fait peur à tout le monde. Le président américain a employé une expression que j'aime beaucoup. « Take your win ». Ça veut dire « prends ta victoire ». Parce qu'il y a une victoire là-dedans pour Israël. On le dit, la majorité des 350, maintenant on dit, drones ou missiles qui visaient et qui s'en allaient sur le territoire israélien ont été interceptés. On le dit d'ailleurs, c'est intéressant aussi, par évidemment le système dôme d'acier qui est aidé par les Américains, mais aussi la France, la Jordanie, la Grande-Bretagne ont contribué à tout ça. L'aviation israélienne a été aussi très efficace. Puis il y a une autre chose qui est arrivée et qui est vraiment pour l'Iran, qui devrait être inquiétant pour l'Iran. Et ça commence à sortir aussi. Le Wall Street Journal en parle, beaucoup de sources le disent. La moitié de ce qui était destiné en Israël n'a pas démarré, a explosé au départ. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes techniques ou technologiques de la part de l'Iran. Et c'est ça qui est important, c'est que, entre autres, le secrétaire à la défense américain, Lloyd Austin, dit, écoutez, le système fonctionne. Il essaie de dissuader, donc, Israël. Le système fonctionne. Restons-en là. Même l'Iran a dit, regardez, on s'est retenu.
Ouais.
Le président iranien a dit, on a donné une leçon à Israël et on ne recommencera pas. Ça a été même dit comme ça. Alors, on voit qu'il y a une retenue de la part de tout le monde, mais encore une fois, j'imagine les réunions du cabinet israélien. Là, il y a des radicaux là-dedans, même Benny Gantz, qui représente l'opposition, qui est au cabinet de guerre, a dit il va y avoir une réaction. Parce qu'Israël a perdu la face, comme je l'ai dit, parce que son système de, en anglais, deterrence, son système de dissuasion face à l'Iran a subi vraiment une faille importante.
Mais comment crois-tu que l'Iran va interpréter le bilan de cette attaque-là, ouais, neutralisée? Comment la population iranienne va réagir?
Ben ça, c'est intéressant parce que dans le cadre de ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui disent l'Iran a d'autres problèmes internes. Et il y a un ras-le-bol en Iran de toutes ces manœuvres à l'étranger. Il y a une peur des Iraniens aussi qu'on passe la frontière et puis qu'on aille ouvertement dans une guerre beaucoup plus large. Et il y a des gens qui citent, par exemple, l'insatisfaction des Iraniens et les manifestations depuis la mort de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini en 2022. Mais il y a des exemples encore récents. Le journal Haaretz, qui est un journal assez progressiste en Israël, raconte une histoire, Paul. C'est un match de soccer qui a eu lieu un peu après l'assassinat le 1er avril d'un haut gradé des gardiens de la Révolution à l'ambassade d'Iran à Damas. Et au moment début d'un match, et on voit ces images-là, on peut les voir sur X, entre autres, au moment où l'organisation du match dit « on va prendre une minute de silence pour la mémoire de ce personnage-là qui a été assassiné », les gens protestent. C'est fou de voir la protestation. Et les gens disent « on ne veut pas payer le coût de vos guerres ». Alors, on voit qu'il y a une impatience et probablement c'est ça qui va retenir, en tout cas, qui fait le plus peur au régime des ayatollahs que la menace d'Israël.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour Gaza?
Oui, ça c'est important parce que je ne sais pas si tu l'as vu hier ou si vous l'avez vu tous les deux. Moi, j'ai vu Antonio Guterres le dire, mais Bob Rae à l'ONU, il a lancé une sorte de cri hier en disant « c'est bien beau tout ça, là ». Mais pendant ce temps-là, là, ça continue là-bas. Il y a un problème humanitaire terrible. On a vu hier, et c'est vraiment la misère à Gaza. On a vu hier ces milliers de gens qui, voyant que l'armée israélienne s'était retirée, tout ça, en tout cas, une grande partie de leurs effectifs, ont commencé à marcher le long de la route sur la bande de Gaza, sur le bord de la mer, pour retourner dans le nord. Une grande partie de ces réfugiés qui vivaient dans le nord, qui ont été envoyés dans le sud quand les Israéliens ont attaqué le nord, ces gens-là ont commencé à retourner chez eux pour voir l'armée israélienne leur dire de retourner ou en tout cas essayer de les contrôler le long de la route. Et il y a donc un problème où les gens sentaient peut-être un répit dans les combats, avaient un espoir, mais rien de tout ça n'est réglé, là. Puis les négociations pour un cessez-le-feu ne fonctionnent pas. On dit même que les Israéliens commencent à dire ouvertement la majorité des otages, on le sait, sont à Rafah. Donc cette espèce de spectre-là que l'attaque de Rafah, entre-temps, on imagine les discussions...
C'est Netanyahou qui a dit la date est déterminée.
Exactement.
Pour...
Et ouais. On imagine les discussions là, au sein du cabinet de guerre israélien. C'est un dossier éminemment complexe, hein, parce qu'il y a plusieurs fronts, et c'est très tactique, c'est très... Et c'est la réputation d'Israël, on le sait, et tout ça. Alors, ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est que les Israéliens seraient en train de préparer deux brigades, principalement de réservistes, qui se rendraient à Gaza, mais cette fois-là pour organiser une migration d'une partie des réfugiés du sud vers d'autres régions de Gaza pour préparer le terrain à une offensive militaire autour de Rafah. C'est extrêmement inquiétant.
Merci beaucoup, Jean-François. Fabrice, tu as suivi évidemment tout ça en fin de semaine. On a pu échanger. Parle-moi de l'opération comme telle lancée par les Iraniens dans la nuit de samedi à dimanche avec les drones et les missiles.
On peut parler d'une vague vraiment déferlante de projectiles. Les Israéliens ont une expression, je pense qu'elle est très imagée, mais ils ont parlé d'un essaim. On imagine bien un essaim d'abeilles là, qui est dans le ciel, qui charge. Donc il y avait environ 320 missiles et drones suicides. La moitié, c'était ces fameux drones kamikazes. C'est quoi des drones kamikazes? Imaginez un missile pas très sophistiqué sur lequel on a greffé une aile Delta là, d'environ 2,50 m. C'est assez lourd, ça coûte pas très cher à faire, ça vole pas très haut, mais l'avantage, c'est que ça évite les radars. C'est équipé c'est guidé par satellite pour éviter le brouillage GPS. C'est un moteur de temps, là, un moteur qu'on mettrait sur une tondeuse ou un souffleur à feuilles. Ça va pas vite, c'est assez agressant. Moi, en Ukraine, on entendait le bourdonnement dans le ciel. Hein. Et c'est une petite charge, environ 40 kilos, mais ça peut quand même faire des dommages. En janvier, il y a des 3 soldats américains qui sont morts sur une base à la frontière entre la Jordanie et le Syrie. Ils ont été atteints justement par un drone kamikaze. C'est un système qui est très souple, ça peut se tirer depuis un semi-remorque, mais ça met beaucoup de temps. Ça a mis à peu près 9 heures pour atteindre le sol israélien parce que ça vole à moins de 200 km/h. C'est ça qui a permis à Israël d'ailleurs de se préparer. Et à l'autre bout du spectre, il y avait les fameux missiles balistiques. On dit qu'effectivement, il y en a 120, il y en a peut-être 50% qui ont sauté au décollage ou qui sont retombés peu après. Là, on est vraiment dans la haute technologie à la base, là, un missile balistique. Ça vole au-dessus de l'atmosphère, ça va jusqu'au dessus de l'atmosphère à des vitesses vraiment hypersoniques, c'est-à-dire 15 fois la vitesse du son, donc beaucoup plus difficile à intercepter. Et ça met, depuis l'Iran, on estime, ça met moins de 10 minutes pour atteindre le sol israélien. Donc, ils ont tiré en décalage. Ils ont d'abord tiré les drones et après, à la fin, ils ont tiré les missiles. Israël affirme que 99%, ce que disait Jean-François, de tous ces projectiles ont été détruits avant d'entrer dans l'espace aérien israélien, grâce à des interceptions, effectivement, soit pas depuis des navires de guerre américains qui étaient positionnés dans la région, soit depuis des systèmes anti-aériens français, anglais, etc. Parce qu'ils ont aussi des bases toujours depuis la bataille contre le groupe armé État islamique. Ils ont toujours des bases en Syrie et en Irak. Mais là, la question qu'on se pose, c'est que quel aurait été le bilan au final si la plupart de ces engins n'avaient pas été détruits par des pays amis, par des pays alliés? Parce que le principe, puis on s'en est parlé aussi brièvement ce week-end, c'est que moi, cette tactique-là d'envoyer plusieurs types de projectiles à différents niveaux dans l'atmosphère, à différentes périodes, ça n'a qu'un but, c'est saturer vraiment les défenses antiaériennes, c'est saturer tout l'espace aérien, saturer les radars. Et en fait, les drones sont juste là pour essayer de perturber un peu tout ça. Et c'est un peu le hors-d'œuvre, l'apéritif avant le plat principal, qui sont les missiles balistiques qui, eux, font des ravages considérables.
Bon, t'es allé dans cette région, t'es allé en Ukraine, et tantôt, t'as commencé à faire une espèce de comparaison entre la façon que l'Iran a frappé et la façon dont les Russes ont frappé en Ukraine.
Exactement, et eux le font tout le temps, depuis, je dirais, environ un an et demi, à des proportions moindres. Moi, j'ai rarement vu ou entendu des attaques en Ukraine simultanées comme ça, qui impliquaient près de 300 engins explosifs. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est quand même, je pense, 60 fois, presque 60 fois plus grand qu'Israël. Donc le maillage, c'est pour ça que les Ukrainiens, depuis des mois, réclament à corps et à cri des systèmes antimissiles comme les Patriotes, qui sont très efficaces, américains, parce qu'ils disent qu'ils n'y arrivent plus. Et toutes les nuits, ou presque, on voit ce système-là de drones suivis de missiles qui attaquent en particulier toutes les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Et la situation est catastrophique en ce moment en Ukraine. On en parle moins. Et je lisais sur X, justement, plusieurs Ukrainiens qui s'étonnaient en disant: mon Dieu, toute la communauté internationale a été en émoi samedi soir, s'est mobilisée avec des moyens incroyables, les Américains, les Anglais, les Français, les Jordaniens, probablement d'autres pays du Golfe qui veulent pas le dire, pour donner justement un coup de main à Israël et essayer d'arrêter ça, alors que ça fait partie de leur quotidien, quoi.
C'est ça, deux poids, deux mesures.
Deux poids, deux mesures. Et ils réclament, je pense, le président Zelensky hier disait, levait la main, disant, on aimerait ça, nous, en avoir des systèmes. Parce qu'Israël est plus facile à défendre, en plus. Le territoire est beaucoup plus petit. Ils sont suréquipés, quoi. T'as parlé du dôme de fer. Il y a le dôme de fer qui intercepte essentiellement des missiles pas très hauts. Les drones, Shahid, l'avantage iranien, c'est qu'on peut quasiment les tirer à la mitrailleuse depuis le sol, tellement ils se déplacent lentement. Mais les missiles hypersoniques, ça prend des moyens supérieurs, quoi.
Merci à tous les deux. Bonne journée.
Merci.
Jean-François Lépine et Fabrice de Pierrebourg. Maintenant, on va aller à New York, où nous attend Richard Châteauvert. C'est une journée historique aux États-Unis. Donald Trump, qui devient le premier ex-président à subir un procès de nature criminelle. Donc, 34 chefs d'accusation déposés contre lui pour avoir, entre autres, falsifié des documents comptables dans le but de cacher au public américain, tout juste avant les élections, sa liaison avec une actrice porno, Stormy Daniels. Richard est à New York. C'est vraiment une première historique, là, un ancien président qui fait face à des accusations criminelles.
Oui, tout à fait. On n'a jamais vu ça, mais M. Trump fait face à des accusations. Il pourrait subir 4 procès, sans doute pas avant l'élection présidentielle. Donc, Paul, voici l'histoire. Tout a débuté en 2006, 4 mois après que Melania Trump eut donné naissance au cadet des enfants Trump, Barron. M. Trump a fait la connaissance de Stormy Daniels, alors âgé de 27 ans. Ils auraient eu une relation intime, ce que nie M. Trump. Stormy Daniels a tenté de vendre cette histoire aux médias. Un mois avant l'élection présidentielle de 2016, après la diffusion de la fameuse vidéo que tout le monde a vue dans laquelle M. Trump se vantait de pouvoir ploter les femmes comme il l'entendait, M. Trump et son avocat personnel Michael Cohen ont créé un stratagème pour faire en sorte que M. Cohen verse 130 000 $ à Stormy Daniels pour acheter son silence afin que le public ne soit pas au courant de cette liaison. M. Trump a ensuite remboursé M. Cohen par une série de chèques pendant la première année de sa présidence. Selon l'accusation, ces chèques ainsi que des factures ont été inscrits au livre comptable comme s'il s'agissait de frais juridiques. M. Trump aurait également conclu une entente avec l'éditeur du tabloïd National Enquirer pour qu'il verse 150 000 $ à Karen McDougal, une ex-playmate de Playboy qui affirmait avoir eu une liaison de 10 mois avec M. Trump également en 2006. M. Trump nie également avoir eu cette liaison.
Bon, évidemment, M. Trump et ses avocats ont essayé jusqu'à tout récemment, jusqu'à dans les derniers moments, là, de faire retarder le procès, mais les tentatives ont échoué.
Oui, M. Trump tente sans cesse de faire retarder ses affaires judiciaires. Les avocats de M. Trump ont tenté à 12 reprises de faire retarder le procès, donc 4 fois la semaine dernière. Ils voulaient notamment que le procès se tienne ailleurs qu'à Manhattan, où M. Trump n'a reçu que 12% des suffrages en 2020. La sélection du jury débute donc ce matin. Elle va être extrêmement importante. Des milliers de candidats jurés vont défiler par groupe. Ils devront répondre à 42 questions. On ne leur demandera pas s'ils ont voté ou non pour M. Trump, mais plutôt quels médias ils consomment, s'ils sont supporters ou adhérents des groupes d'extrême droite QAnon, Proud Boys ou Oath Keepers, ou du groupe d'extrême gauche Antifa. La preuve documentaire, Paul, est assez solide et d'anciens collaborateurs de M. Trump vont témoigner pour la poursuite, dont Hope Hicks, son attaché de presse en 2016, qui aurait pris part aux discussions visant à faire taire Stormy Daniels. Le témoin problématique, c'est Michael Cohen, son ex-avocat personnel qui s'est tourné contre M. Trump. M. Cohen a purgé une peine de 2 ans et demi d'emprisonnement, notamment pour avoir menti au Congrès. Le tribunal va siéger 4 jours par semaine pendant environ 6 semaines. M. Trump devra être présent à chaque séance. Il a déclaré qu'il témoignerait. Ça reste à voir. L'autre question est de savoir comment il va se comporter dans la salle d'audience. Quoi qu'il en soit, M. Trump bénéficie, comme tout accusé, de la présomption d'innocence.
Bon, tout ça, il faut le dire, se passe alors qu'on est en pleine campagne électorale, une course à la Maison-Blanche. Quel sera l'impact sur l'élection présidentielle?
Mais pour le moment, les Américains ne suivent pas toutes ces accusations auxquelles fait face M. Trump, mais le fait d'entendre parler pendant les prochaines semaines d'une actrice porno, d'une ancienne playmate, du National Enquirer et de versements faits à ces deux personnes pour les faire taire pourrait changer la perception des Américains. Selon 2 sondages publiés la semaine dernière, 60% des électeurs considèrent comme sérieuses les charges portées contre M. Trump ici à Manhattan. Selon un autre sondage, le tiers des électeurs indépendants serait moins porté à voter pour M. Trump s'il était trouvé coupable de crimes avant l'élection présidentielle. C'est une donnée extrêmement importante car, on le sait, ce sont les électeurs indépendants, ni démocrates, ni républicains, qui décide des élections aux États-Unis.
Merci Richard. Richard Châteauvert en direct de New York a eu...
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Je regardais des statistiques d'il y a 15 ans concernant la consommation. Là, je vais utiliser l'expression Ritalin, là, c'est des psychostimulants. Le Québec était champion canadien de cette consommation. Et on prescrivait beaucoup de Ritalin aux enfants. Il y avait des débats, il y avait une pression parfois qui était mise par l'école. Le Journal de Montréal nous dit ce matin que cette consommation de psychostimulants est repartie à la hausse chez les jeunes Québécois. Et tout indique d'ailleurs que c'est en progression constante depuis une vingtaine d'années facilement au Québec. Joël Monzé est avec nous. Il est docteur en neurosciences et directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Monsieur Monzé, bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il y a de plus en plus de Québécois qui prennent, de jeunes Québécois là, qui prennent des psychostimulants?
Oui, en fait, je viens de sortir un rapport il y a quelques jours qui démontre en fait la consommation de psychostimulants en nette progression à chaque année. Ce qui a été intéressant, c'est que en 2019, début 2019, j'étais sorti avec une série de pédiatres où on avait montré que c'était illogique de continuer de cette manière-là. On a vu qu'il y a eu une légère diminution de consommation de psychotropes, donc probablement que les pédiatres et les médecins ont été sensibilisés pendant cette période-là, mais depuis 2020, on est reparti à la hausse.
Comment vous expliquez à nouveau là, cette tendance à prescrire des psychostimulants, je dirais, à peu près tous les enfants qui ont peut-être un signe ou deux là?
Mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs. La première chose qui est là, dans le sens que l'élève est en difficulté scolaire, l'élève veut mieux performer, l'élève est comparé avec les autres, on est dans une société de performance, donc ça va mettre un certain impact par rapport à ça. Et souvent, quand le parent arrive auprès du médecin ou auprès éventuellement d'un psychologue qui pourrait aider au processus diagnostique, le parent est à bout de nerfs, le parent a déjà essayé tellement de choses que souvent la médication devient le moyen le plus efficace à court terme de pouvoir aider. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de faux TDAH. Ce n'est pas un problème nécessairement de prescrire un médicament, c'est de s'assurer que le médicament est prescrit à la bonne personne ou que c'est la meilleure stratégie d'intervention. Il y a eu plusieurs études qui ont démontré, notamment l'étude du CEREA il y a quelques mois, qui montrait que les bébés de la classe avaient 23% de chance ou de risque plutôt d'avoir un TDAH, alors que si on était les plus vieux de la classe, donc nés à l'automne, on n'avait que 17%. Donc on voit que nos tests psychométriques ne sont pas valides, ne sont pas assez sensibles pour pouvoir déterminer si on a ou on n'a pas un vrai TDAH.
Mais ce que vous décrivez, parce qu'il y a beaucoup de pédiatres qui disent devoir enlever le psychostimulant, donc arrêter la prescription parce que c'est pas un véritable TDAH et parce qu'il y a d'autres façons de traiter l'enfant. Mais est-ce que ça vient pas, M. Monzé, traduire le manque de ressources, un système scolaire avec haute pression, la difficulté de trouver des spécialistes qui sont capables de porter le bon diagnostic?
Oui, puis je crois que l'INES a sa part de responsabilité. L'INES est notre Institut national de l'excellence en santé et en services sociaux. Donc normalement, il devrait réunir les différents ordres professionnels et pas uniquement les médecins et les psychologues. Il faut amener aussi les professionnels psychosociaux comme les psychoéducateurs, comme éventuellement les centres jeunesse, éventuellement les travailleurs sociaux, pour pouvoir arriver en fait à avoir une meilleure idée de l'ensemble des facteurs qui peuvent conduire à des comportements qui s'apparentent à du TDAH, mais distinguer qu'est-ce qui est du TDAH et qu'est-ce qui n'en est pas. Beaucoup de jeunes qui sont anxieux vont avoir éventuellement des symptômes qui s'apparentent au TDAH, mais ce n'est pas un TDAH. Les jeunes qui sont continuellement sur les écrans vont avoir aussi, quand ils sont en perte de dopamine au moment où ils arrêtent leur stimulation virtuelle, numérique, eh bien, ça peut donner des comportements soit d'inattention, soit d'hyperactivité ou d'impulsivité. On peut voir aussi les familles qui sont en difficulté. Parfois, il y a de la chicane à l'intérieur de la famille, il y a des déménagements, il y a des séparations. Donc tous ces facteurs-là créent des contextes qui peuvent amener des comportements qui sont représentatifs d'un TDAH, mais qui ne sont pas du TDAH. Alors ici, on pourrait même avoir plein de ressources si on ne s'adresse pas au vrai problème ou qu'on s'arrête uniquement à ce qu'on voit immédiatement. Les symptômes du TDAH sont très faciles à identifier, mais à ce moment-là, on ne s'adresse pas aux bonnes choses. Donc l'enseignant ne sait pas où travailler. L'éducatrice spécialisée non plus, le psychologue non plus. Donc même le parent est perdu là-dedans.
Est-ce qu'on est capable d'évaluer le nombre d'enfants et d'adolescents au Québec qui prennent des psychostimulants et qui n'en ont pas besoin?
C'est très difficile parce que les données que l'on a sont des données parcellaires. Les données dans mon rapport, ce sont des données, d'ailleurs, régulièrement, le Journal de Montréal, le Journal de Québec vont publier ce même genre de données-là, viennent de la RAMQ. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont à l'assurance médicaments du public. Donc, on n'a pas nécessairement d'informations sur ce qui se passe au niveau des assurances privées. Les données que j'ai publiées, en fait, et qui ont été publiées par le Journal de Montréal, on voit une augmentation au départ des données de l'assurance médicaments. Mais là, déjà, c'est déjà un problème parce que si le parent qui émerge à l'assurance médicaments, s'il avait d'autres options, comme par exemple les assurances privées vont rembourser certains traitements de travailleurs sociaux, de psychoéducateurs, de psychothérapie, mais peut-être que le parent pourrait avoir des alternatives éventuellement par rapport à la prise de médicaments.
Mais vous me corrigerez, mais je regardais les chiffres, là, on était champion canadien au Québec de la prescription de Ritalin. Dans les autres provinces, comment on gère ça?
On te gère beaucoup mieux par des interventions psychosociales. D'une part, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par Janet Curry, qui est une Américaine qui a travaillé avec un groupe de chercheurs au Québec et en Ontario. Et elle a démontré, en fait, que à la base, c'est une dame qui est en économie. Donc, son objectif n'était pas un objectif médical. Mais elle a démontré, grâce, en fait, à l'intervention avec des psychotropes au Québec ou des psychosociales en Ontario, on a démontré que l'intervention psychosociale est beaucoup plus efficace. Moi-même, je travaille sur un gros projet en Alberta où j'accompagne des écoles pour faire des interventions psychosociales directement dans les écoles pour revenir en fait vers des interventions universelles et travailler sur le fond, l'environnement de l'enfant, plutôt que de juste d'imaginer que l'enfant est seul porteur du problème.
Merci beaucoup, M. Monzé. Bonne journée.
Avec grand plaisir.
Au revoir. Joël Monzé est docteur en neurosciences et directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Et à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, c'est très polarisant, des parents qui vont me dire « Oui, mais moi, ça a changé la vie de mon enfant. » On ne dit pas qu'il n'y a pas de cas de TDAH au Québec. On dit que souvent, on ne prend pas le temps de faire une évaluation. C'est pas la faute des parents, c'est comme ça. Et on attribue, par exemple, de l'anxiété au manque de sommeil, ça peut être les écrans, mais c'est une réponse rapide, la médication. Puis combien de pédiatres, puis je pense au docteur Chicoine, là, qui disait, moi, ça m'arrive très, très souvent de dire, non, cet enfant-là, c'est pas ça qu'il a, puis c'est pas vrai qu'on va lui prescrire, donc, du Ritalin. On revient sur le cas de Robert Miller, ce milliardaire, l'homme qui aime les jeunes filles. Il y a plusieurs choses ce matin, mais la presse nous montre à quel point les policiers du SPVM qui ont travaillé le dossier se sont heurtés à de nombreux obstacles. Vincent Larouche est avec nous. Bonjour, Vincent.
Oui, bonjour.
Donc, tous les documents que tu as pu consulter montrent que le SPVM a tenté de vraiment là bâtir un dossier sur Miller. Les cas de recrutement de jeunes filles sont nombreux, c'était documenté, mais le DPCP a dit non. Peut-être juste nous expliquer d'abord comment cette histoire-là sur Miller a commencé. Bon, il y a eu l'émission d'enquête de Radio-Canada, mais le point de départ, la bougie d'allumage, là, c'est l'ex-conjointe de Robert Miller.
Donc, aux environs de 2008, l'ex-conjointe de M. Miller, ils avaient vécu un divorce assez acrimonieux. Et M. Miller, d'ailleurs, depuis longtemps, a dit que toutes les allégations contre lui, il prétend que c'est du salissage dans le cadre de ce divorce très acrimonieux. Mais son ex-épouse, il y avait un litige quant aux répartitions, évidemment, de sa fortune suite à leur divorce. Elle a engagé des détectives privés pour suivre ses allées et venues, surveiller ses comportements. Ils ont découvert que M. Miller recevait très, très, très fréquemment, selon eux, la visite de très jeunes femmes. Ils ont suivi des jeunes femmes, vérifié certaines de leurs identités, questionné un peu sur ce qui se passait. Ils ont eu des indications qu'on disait que c'était de la pornographie, de la prostitution juvénile, pardon. Et ensuite, deuxième tour de roue, si on veut, Madame, l'ex-conjointe de M. Miller a engagé une deuxième firme de sécurité. Ça n'avait pas été su jusqu'à maintenant. Garda, donc une des plus importantes entreprises de sécurité au Canada, qui a beaucoup plus de moyens que les détectives qu'elle avait initialement embauchés. Eux ont refait un passage, ils ont tout redocumenté encore une fois, et ils étaient simplement embauchés dans le cadre d'un litige conjugal, mais ils ont dit, on n'est pas capable, on ne peut pas garder ça pour nous. On a des indications comme quoi il y a des mineurs qui sont abusés en ce moment, on doit aller à la police. Ils se sont rendus au SPVM, ils ont dit, on n'a pas le droit de vous donner toutes les informations qu'on a en main, parce que c'est privé, c'est un contrat privé, mais si vous venez perquisitionner au siège social de Garda, personne ne va s'opposer, puis vous ramasserez tout. Et c'est ce que la police a fait en 2009.
Est-ce qu'on peut dire que Robert Mueller, milliardaire, avec tous les pouvoirs que ça peut lui conférer, a directement, ou surtout par le biais de ses avocats, par exemple, fait comprendre et mis des obstacles pour que l'enquête meure au feuilleton?
Oui, eh bien, l'enquête n'est jamais morte au feuilleton, mais il a mis des bâtons dans les roues constamment avec son entourage. Écoutez, les enquêteurs, ils racontent dans les documents qu'on a obtenus comment ils allaient voir des témoins, et puis soit les témoins avaient été prévenus à l'avance, écoute, la police s'en vient probablement pour te parler bientôt, tu dis rien, c'est important. Ils ont intercepté, même parce qu'ils avaient des lignes téléphoniques sur surveillance, ils ont intercepté des messages texte, par exemple, à une jeune femme qui disait « Écoute, il y a une limousine qui s'en vient te chercher pour t'emmener quelque part. Si la police arrive avant, tu parles pas, c'est très important. » Ensuite, une fois qu'ils avaient été rencontrés, il y avait parfois des avocats qui revenaient voir des témoins ou des victimes potentielles pour leur dire « Écoutez, il faut pas parler, si et ça, on peut peut-être trouver un arrangement. » Il y avait des policiers retraités, donc toute une garde personnelle de policiers retraités qui avaient une agence de sécurité. Ils avaient leur bureau directement au siège social de l'entreprise de M. Mueller, donc à l'intérieur de ses locaux. Et quand la police est arrivée pour mener une perquisition là-bas, ils ont été accueillis à la porte par un avocat qui a dit « Tout ce qui est à l'intérieur, voici, c'est couvert par le privilège du secret professionnel de l'avocat. Vous n'avez rien le droit de consulter. » Dites-nous ce que vous voulez obtenir, on ira discuter de ça plus tard, mais il n'y a rien qui peut être accessible maintenant.
Bon,
Alors, à chaque étape, c'était toujours de plus en plus compliqué.
Le DPCP, les poursuites criminelles et pénales, ont regardé ça puis ont conclu que la preuve n'était pas suffisante. Et c'est là que c'est... Puis là, je comprends qu'on va pas se substituer au procureur, mais de dire qu'il y a eu des opérations de filature, qu'on a vu ces jeunes filles-là, puis pas une fois, deux fois, trois fois, dans des résidences, hôtels et tout ça, les témoins, les rapports des enquêteurs sur les cadeaux qui étaient disponibles. Et pour le DPCP, il manque encore des éléments.
C'est-à-dire que là, le DPCP, dans leur réponse, ils ont bien fait attention de nous souligner plusieurs fois, écoutez, c'est pas seulement la quantité de preuves et tout ça, il faut qu'on aille une conviction qu'on est capable d'obtenir une condamnation, que c'est possible d'obtenir une condamnation. Et ils reviennent beaucoup avec ça dans leur réponse, c'est-à-dire que même si on a beaucoup de preuves, si c'est passé quelque chose après qu'on ait ramassé la preuve, qui nous dit c'est sûr qu'on va se faire planter, on va perdre devant la cour, alors c'est leur responsabilité de ne pas entreprendre la poursuite s'ils ont cette conviction-là. Et ils nous disent pas c'est quoi l'élément qui était le déclencheur pour eux, mais il semble nous indiquer qu'il y a un élément qui est survenu après qu'on ait ramassé la preuve qui leur faisait dire « on n'a pas de chance, c'est garanti qu'on perd. Et si on pense pas qu'on peut gagner, il faut pas commencer. » Maintenant, ils insistent beaucoup pour nous dire « il y a des nouvelles informations qui sont rentrées depuis un an, le dossier est très actif et c'est possible qu'on révise notre décision. » Et ça, Paul, depuis des années que je trouve ça, j'ai jamais entendu le DPCP nous dire à l'avance « Écoutez, on n'a pas porté d'accusation contre une personne bien précise qu'on identifie et de dire publiquement « c'est possible qu'on révise notre décision », j'ai jamais vu ça. »
Merci beaucoup, Vincent. Toujours intéressant. Vincent Merci. Larouche, qui est du bureau d'enquête de la presse.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.